Sexploration. Sexploration sur RCN. Lucille Bach.
Tantra, sexe sacré, orgasme énergétique, entre mysticisme, bullshit marketing et vraie expérience de connexion profonde, où se situe la vérité? Et si le sexe pouvait être une porte vers quelque chose de plus grand? Bienvenue dans Sexploration, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle sur ta sexualité. Salut Chloé.
Salut Lucille.
Aujourd'hui, on va explorer les liens entre le corps et l'âme, donc aussi le mental, hein, tout simplement pour être plus explicite, désir et énergie pour comprendre ce que veut dire sacraliser le plaisir, sans tomber dans le piège du sensationnalisme. Ouh, je l'ai bien dit, c'est bien. Toi, en tant que sexologue, est-ce que tu peux un petit peu nous définir et pourquoi on parle-t-on de sexualité sacrée ?
Sexualité sacrée parce que effectivement tout va se passer vraiment dans son psychisme, dans des croyances, dans un autre monde, on va dire, dans quelque chose de plus universel, pardon, que simplement un rapport au corps.
Oui, puis voilà, c'est un peu aussi, ça touche à tout ce qui est émotionnellement parlant, plus sensible, ça peut parler aussi. Qu'est-ce que le tantrisme en lui-même, au-delà du cliché paradoxal de cette chose?
Alors, si on écarte toute dérive et tout bullshit, comme tu disais tout à l'heure, le tantrisme reste une pratique de massage où finalement le corps est pris dans son entièreté. C'est simplement ça. Sauf qu'il y a beaucoup de praticiens où ça va être effectivement un petit peu comme on dit dans les salons à Paris, la finition main plutôt qu'autre chose. Donc là, c'est là où il y a les dérives. C'est censé être le tantrisme, une expérience où on va être dans vraiment le prendre le corps en entier. Le praticien, en général, est habillé, n'est pas forcément nu. On a souvent aussi cette fausse croyance. Ça va être simplement une technique de toucher où on va pouvoir aller sur les organes génitaux, etc., sans forcément qu'il y ait de pénétration, si ça, on fait attention. Mais des vrais praticiens vont simplement prendre votre torse et vos fesses pour la même partie. Il n'y a pas de différence à ce moment-là. Donc le toucher de votre corps, lui, va réagir d'une manière où on va vraiment avoir des sensations qui vont être là, mais ce n'est pas quelque chose qui est sexuel.
Dans cette idée-là, comment on va lier le plaisir charnel à ce qu'on peut appeler l'élévation spirituelle, on va dire la connexion à soi pour que ce soit plus parlant?
Ça, c'est d'autres univers. C'est vrai que le tantrisme, on a souvent tendance à faire ce raccourci sur des massages érotiques. C'est pas du tout le cas. Il n'y a rien de sexuel normalement dans un massage tantrique. Par contre, il peut y avoir effectivement des façons de faire dans d'autres pratiques où là, on va être à visée sexuelle. Et c'est pur et dur. C'est explicitement dit. Et ça va être des expérimentations, effectivement, d'aller au plus profond de son corps pour aller ressentir des sortes de méditations, hein, finalement, où on va aller vraiment dans l'exploration de son corps, des sensations, où on va pas forcément être dans le pénétratif, mais dans vraiment le ressenti de ces moments-là, pur et dur.
Intérieur. Est-ce que pour toi, ce serait plus une pratique ou ce serait plus un état d'esprit, le tantrisme?
C'est un état d'esprit, le tantrisme, parce qu'il faut déjà faire la part des choses. Il faut avoir un niveau de réception et de connectivité qui est énorme. C'est pas du tout une porte ouverte à tout le monde. Il y a énormément de dérives, donc si on n'est pas informé, on risque beaucoup de tomber sur des gros pièges. C'est vraiment faire une énorme différence avant de vouloir même mettre un orteil dans ce monde.
Oui, donc c'est pas... on va dire accessible ou à portée de tous si on n'est pas informé, si on n'est pas... comment je pourrais dire ça? Si on ne se plonge pas dans ce sujet réellement, finalement.
C'est ça. Vaut mieux vraiment négocier ce sujet déjà à l'écrit, se renseigner, rencontrer des vrais praticiens ou alors aller carrément à des conventions spécialisées pour vraiment s'informer quelles sont les vraies bornes et les limites de ces pratiques-là et qu'est-ce qui est par contre du charlatanisme, hein, complètement.
Faites attention. Que révèle, devrais-je dire même, que révèle ce besoin de sens en fait dans le sexe?
Effectivement, comme tu t'as tout dit en fait, un sens. C'est effectivement remettre un sens à ce qu'on fait, c'est-à-dire on ne fait plus l'amour comme des animaux, on le fait maintenant avec notre intelligence humaine, donc bah, forcément c'est un sens. L'intelligence humaine, c'est qu'est-ce qu'on y met ? Bah, des émotions, des ressentis, des sensations, donc on a tendance souvent à perdre ça dans une sexualité, on va dire classique, hein, je prends des grandes guillemets quand je dis ça. Mais forcément, ça fait du coup écho à des personnes qui veulent retrouver justement des plaisirs autres que purement mécaniques. Donc ils vont se tourner aussi vers ça pour essayer de se reconnecter avec son corps, pour avoir des méditations sur ces moments-là. Donc là, c'est des choses où on resacralise finalement vraiment son entièreté et pas que le corps.
Est-ce qu'on pourrait dire que ça peut développer notre sensibilité aussi ?
Oui, bien sûr. Ah bah oui.
On parlait tout à l'heure, un peu dans l'intro, tout ce qui est orgasme énergétique. Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est du bullshit, tout simplement ? Ce serait quoi, pour toi, en tant qu'experte sexologue, justement, ton avis nous intéresse ? Qu'est-ce que ce serait un orgasme énergétique ?
Alors, un orgasme énergétique, pur et dur, moi, véritablement, mon avis. Hein, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas réponse à tout. Mais... pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Je veux dire, c'est un niveau, à mon avis, d'élévation. Ça doit concerner une personne sur 1000, 10 000, je ne sais même pas. Le fait, par contre, d'avoir des orgasmes de pleine conscience, ce genre de choses, là, c'est beaucoup plus accessible déjà. Mais c'est des niveaux de temps, d'espace pour soi, de charge mentale inexistante ou quasi inexistante. Enfin, finalement, je pense... c'est peut-être un peu fort ce que je veux dire, mais pour moi, c'est quand même du sexe de bourge, dans le sens où il faut avoir du temps et les moyens pour avoir ce genre de connexion.
Avoir l'esprit libre jusqu'au bout.
C'est exactement ça.
Est-ce que, justement, en restant dans cet état d'esprit, mais est-ce que l'énergie, cette fameuse énergie sexuelle, est-ce qu'elle circule vraiment ?
C'est aux croyances. C'est comme les personnes qui pensent, qui croient au chakra, ce genre de choses. C'est vraiment à la sensibilité de toute cette énergétique, finalement, qui va fonctionner ou pas. Il y a forcément des personnes réfractaires, il y en a qui y croient. Si vous êtes quelqu'un, effectivement, où vous avez une certaine sensibilité à ça et que vous voulez découvrir, mais foncez, il n'y a pas de limite à ça. Si vous êtes bien entouré, vous savez que c'est des professionnels, des vrais professionnels, et ça c'est vraiment tout le danger de cet univers-là, il n'y a pas de raison de s'en priver. Par contre, c'est se dire si on n'y est pas réceptif, ça ne sert à rien d'entrer dedans. Et vraiment faire attention, je le répète, il y a tellement, tellement de formations en ligne, ouais, de mises pour moi en danger de la vie, parce qu'il y a quand même des pour avoir vu certaines, je ne donnerai pas de nom parce que je n'ai pas envie de me retrouver en procès, mais pour avoir vu certaines justement de ces formations où on fait des techniques de respiration, où finalement ils nous font faire simplement qu'une chose qui s'appelle, alors pour eux, une élévation. Dans le médical, on appelle ça une syncope, tout simplement. C'est très dangereux, c'est-à-dire qu'on va avoir des régimes hydriques qui vont se mettre en place où les gens ne mangent plus rien, ou certains aliments...
Ah, ça peut aller loin.
Voilà. Dès qu'on touche de toute façon à une nutrition, à une façon de vivre, de boire, de respirer, enfin bref, si on change vos paramètres médicaux, ça doit être entouré par un médecin, un vrai médecin. Si en général il a une chaîne avec un petit dollar autour du cou pour rappeler le sketch des trois frères, on fuit et on prend ses jambes à son cou, quoi.
Oui, en fait là carrément on peut parler de déconnexion du corps et de l'esprit en fait sur ça, mais justement c'est ce que tu étais un peu en train d'évoquer, c'est qu'il peut y avoir danger.
Mais totalement.
Il peut y avoir danger.
Et il peut y avoir danger encore plus où on sait que c'est des phénomènes où on peut prendre en plus de ça certains produits stupéfiants dans ces moments-là. Alors ils ne vont pas être dits comme tels, mais ça va être des herbes médicinales ou des plantes. Et finalement, on peut se retrouver dans des moments orgiques, dans ces endroits-là, où on n'a rien consenti du tout, parce qu'on était dans un état qui n'est pas le nôtre habituellement. Et là, on est vraiment dans un danger, parce qu'on peut, entre guillemets, consentir, parce qu'on n'est pas du tout dans notre état à l'heure, enfin, au moment T où ça se passe. Et quand on reprend nos esprits, se dire « mais qu'est-ce qui vient de se passer, en fait ?» C'était pas du tout ce que je voulais. Ou prenons les choses plus basiques, mais en disant je vais aller voir un praticien tantrique, sans vraiment vérifier, et finalement je me retrouve où il touche à des endroits où je veux pas, où je suis pas du tout consentante, mais il continue par exemple.
Disons qu'en fait, on peut pratiquer ce type de comment je pourrais appeler ça, de massage sain, de massage en lui-même, mais en étant très informé, suivi pour si ça va très loin, comme on parlait sur le plan médical. Et bah oui, c'est possible, mais faire gaffe, quoi. Clairement, faire gaffe.
Faire gaffe, c'est des praticiens, ça ne court pas les rues. Des vrais bons praticiens, ça ne court pas les rues. Donc déjà, c'est souvent des gens qui vont être très bookés, qui vont être souvent réservés à des gens qui ont les moyens. Et quand je dis ça, c'est aussi faire attention. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on voit des formations chères que c'est les meilleures. Hein,
c'est ça.
Pas du tout. Mais en général, c'est déjà aller dans d'autres pays. Donc c'est encore une mise en danger parce qu'on n'est pas dans son pays. Donc on n'a pas la sécurité d'être dans le sien. Enfin, c'est un univers qui peut être vraiment très dangereux. Donc c'est déjà au renseignement de faire un peu son travail, savoir vraiment quels sont les termes et limites de tout ça. Mais effectivement, ça peut être une bonne source de connaissances, ça peut être une très bonne source dans l'émotion, dans le travail sur soi et dans la découverte, si on fait ça avec des bandes de sécurité.
Puis même, je pense que c'est... Enfin, j'accentue la chose pour mettre en alerte, mais c'est une déconnexion du corps, certes, mais je pense que c'est carrément un triptyque. C'est dans le sens, c'est mental, émotionnel, physique, enfin, c'est la totale, quoi.
Bah, et puis en plus, en ce moment, je sais pas si ça te parle, mais on voit sur les réseaux des espèces de cours de groupe où on voit des femmes en transe sol, en train d'hurler, etc.
De s'agiter comme ça,
effectivement.
Ouais, ouais.
Alors, il y a des pratiques comme ça qui existent. Moi, j'en ai pas vu de mes propres yeux. Hein. Je veux dire, j'ai pas encore fait le tour du monde. Je pense effectivement qu'on peut rentrer dans ce genre de transe, mais pas seul. Et pourquoi faire ? Qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir de tout ça aussi ?
Oui, c'est ça.
Ces retraites, ces façons d'exprimer le corps, de quelle manière elles sont amenées ? Est-ce qu'on me demande de prendre quelque chose pour arriver à cet état-là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On va être un peu... dans le chemin simple, mais on ne devient pas moine bouddhiste avec un séjour de 2 semaines en retraite, quoi. C'est faire aussi attention sur ces élévations de l'âme, où on peut en faire, mais c'est tellement un univers qui est dangereux.
Alors c'est large,
que,
oui.
Mon avis très personnel, là j'enlève un peu ma casquette de sexologue 2 minutes, mon avis personnel, c'est que moi j'aimerais faire ces découvertes, tu vois, de voir ce que c'est d'avoir des moments de
d'élévation,
voilà, d'être transcendé, etc. Mais c'est trop dangereux. Par contre, avoir des états de transe en couple, on peut les avoir dans ces moments de slow sex, dans ces moments où on retarde la pénétration, on théâtralise énormément ce qu'on aime. Pour moi, ça suffit amplement à aller dans ces élévations sexuelles sans forcément aller dans le nommage de ce qu'on est en train de faire ou quoi. C'est simplement, on élève un petit peu tout ce qu'on est en train de faire par les sensations, par le toucher, par plein de choses.
Totalement. On parlait spiritualité, mais ça ne veut pas dire uniquement tantrisme, hein, vous inquiétez pas. Mais ça veut dire aussi religion. Et la religion, elle a un rapport au corps qui est parfois, archaïque.
Bien sûr.
Voilà. Elle a beaucoup blessé notre rapport au plaisir et je pense, enfin c'est mon avis perso, et on le voit de toute manière à différents récits, on en a parlé tout à l'heure aussi dans d'autres podcasts, comment on peut dire que la religion, elle a blessé ce rapport à notre plaisir ?
On peut même le crier sur les toits, j'ai envie de dire.
Voilà.
Non, c'est pas pour rien que, je sais pas si vous avez vu ça dans vos villes, mais par exemple la nôtre, aller aux arrêts de bus, c'est bien marqué, les vacances des petites filles, c'est pour faire... des bacs à sable, pas pour avoir une excision. Parce que c'est en ce moment, l'été, c'est le moment justement où on retourne dans les familles avec, où on a une croyance qui va être beaucoup plus traditionnelle quand on va aller voir sa famille. Et c'est là que y a des excisions qui vont se faire, des actes pour justement faire en sorte que ce plaisir n'existe pas, comme le repassage des seins. C'est une pratique qu'on parle moins, mais qui existe encore. C'est pour aller dans des faits aussi moins graves, là je parle forcément tout de suite en haut de l'échelle, mais ça peut être simplement aussi le fait d'avoir une éducation si religieuse que on t'explique que le plaisir est inaccessible. Si c'est des personnes qui sont dans leur religion et qui sont au fait avec ça et qui ils n'en trouvent aucun problème, c'est leur croyance, c'est leur façon de voir, c'est leur idéologie, personne ne peut aller contrecarrer ça. Tant que c'est pas une imposition aux autres, chacun fait ce qu'il veut. Mais sur nos façons de voir les choses, c'est-à-dire qu'on prend par exemple nous, hein, dire souvent nos mamies étaient chrétiennes, allaient à l'église, etc. Nous beaucoup moins, voire pas du tout. Forcément, on a quand même quelques traces dans notre ADN de toute cette culture.
Est-ce qu'on pourrait dire que être croyante ou croyant et sexualité épanouie, ça peut matcher dans l'idée en soi?
Totalement, il n'y a aucun souci à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es en accord avec ce que tu fais, c'est-à-dire que, on prend des religions chrétiennes par exemple, on fait l'amour pour Dieu, je grossis vraiment les traits, c'est limite un petit peu pas ouf ce que je dis, mais effectivement, c'est tant que nous, on vit notre sexualité dans notre religion avec les codes moraux qui imposent et que ça nous va, y a aucun souci à ça.
Comment on pourrait retrouver une sensualité alignée avec soi, avec ses propres valeurs?
Si on a vraiment des envies où c'est un peu flou par rapport à nos croyances, c'est aller voir directement au niveau soit de sa paroisse, à son endroit religieux, c'est aller poser la question à la personne religieuse de notre ville, de notre quartier, pour discuter de ces points-là et voir finalement qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Maintenant, on va écouter Sex on Fire de Kings of Leon. On se retrouve dans quelques minutes.
Sexploration, Lucille Bach.
Précédemment, on expliquait que la masturbation était un moment intime et qu'elle était sacrée, propre à soi, qu'il fallait aussi faire attention à tout ce qui était en termes de pratique du tantrisme et que la spiritualité, voilà. C'est un état d'esprit propre à soi et qu'il faut prendre des pincettes, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler rituel sacré au sexe ?
On peut totalement, on peut totalement s'appliquer dans son univers à soi des moments où il peut se mélanger spiritualité et sexe ou érotisme. Ça, c'est totalement permis et inclus.
Est-ce qu'il y aurait des outils pour... T'en parlais un petit peu tout à l'heure, justement, qu'on peut approfondir. Des outils qui permettraient un peu de se retrouver à cette connexion à soi. Je vais l'appeler comme ça pour le coup.
Bah, des outils, ça va être aussi des moments où, par exemple, on peut se mettre un certain parfum d'ambiance. Ça peut être, par exemple, le fait de ritualiser ce moment-là avec de l'encens, avec des bâtons aussi de sauge. Ça, c'est des moments, finalement, où on est libre. C'est-à-dire que si on a certaines croyances plus que d'autres, rien ne nous empêche de pousser la porte d'une échoppe de magie, par exemple, et se dire, bah, tiens... Ça m'attire, ces pierres-là. On voit maintenant qu'il y a aussi des œufs de yoni. Alors ça, on n'entend pas trop parler, mais c'est des pierres. Là, on est vraiment dans la lithothérapie. Ouais. Hein. C'est des pierres qu'on peut s'insérer. Ça fait un peu comme des boules de geisha, hein, ouais, finalement. Et selon les pierres, il y a certaines énergies, etc. C'est finalement se dire qu'on est en accès libre, parce que c'est nous qui dominons ce moment-là et c'est nous qui le créons. Donc si ça passe par un rituel avec une certaine huile qu'on aurait fait infuser, c'est toujours finalement, si on a nos connaissances, qu'on sait qu'on ne se met pas en danger, que tout va bien, bah, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Ça peut être des bains purificateurs, tout.
Oui, et puis même tu parlais de tout ce qui était méditation, on avait parlé aussi précédemment de tout ce qui est visualisation, de massage, tétralisation, etc. Mm-hmm. Ça rentre dans cette catégorie finalement.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'on peut se dire que notre rituel, ça va être par exemple, on prend un bain tous les deux, on ajoute une dimension spirituelle parce qu'on y ajoute certains ingrédients qui pour nous favorisent une certaine purification. On s'en fout que ce soit pas prouvé par la science. Si nous, ça nous fait du bien et qu'à ce moment-là, on en a envie et que dans notre esprit, c'est clair d'être comme ça, bah, vous faites de mal à personne.
Ouais, le principal, c'est de s'épanouir. Et justement, est-ce qu'on peut parler de sexualité spirituelle, que ce soit en couple, que ce soit en solo ou pas?
Oui. Après, c'est effectivement, si la compagne ou le compagnon n'est pas forcément sur le même rythme, bah, c'est affiner. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui ne va pas finalement déranger ce moment-là si elle n'a pas envie d'aller jusqu'à ces moments-là. Ça peut être une certaine bougie d'une certaine couleur, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un certain encens dans la pièce, le fait de boire un thé détox après. Enfin, on est assez libre finalement.
On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais je pense qu'il y a aussi un état d'esprit à avoir quand on parle de spiritualité, tout simplement, c'est normal. Est-ce que faut-il y croire pour que ça fonctionne, pour que ça vienne de l'intérieur, pour que ça aille vers l'extérieur?
Bah, je pense effectivement que si on est réfractaire, c'est difficile de pouvoir déjà se mettre dans un état qui va modifier un peu notre perception et notre sensibilité aux choses. Par contre, on peut effectivement essayer de le découvrir entre soi, s'acheter des bouquins pour voir un petit peu comment on peut faire, etc., et voir si on a envie d'essayer. Mais de but en blanc, effectivement, moi je crois que pour qu'on puisse travailler sur un sujet ou l'autre, il faut quand même y croire.
Un minima.
Un minima.
On parlait aussi de bullshit tout à l'heure, de mythes, de réalité, de ce qu'on a en tête en général. Comment on peut discerner l'ésotérisme qui s'inspire du marketing là-dessus?
Voilà, c'est monnaie courante, hein, j'ai envie de dire.
Oui.
C'est que effectivement, pour prendre un truc très basique, il n'y a pas longtemps, on vendait du miel aux hommes, en disant que c'était du miel qui redonnait vigueur et force à la verge. Bon, c'était simplement tout un bon petit mélange de trucs pas bons. Finalement, il y a jamais eu de miel, hein, dans la composition, mais ça, voilà, ça montre un côté très santé, très bien-être de ce truc-là, en disant bah, je prends du miel, c'est bon pour ma santé, bah, je vais prendre du Homme Fort Plus ou du Femme Forte Plus parce que ça va jouer sur ma libido, etc. Il y a beaucoup quand même de produits où il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement. Si il est autorisé sur la mise en marché et que vous l'achetez en pharmacie et pas sur des sites bizarres, etc., bah, vous ne prenez pas tellement de risques. J'ai envie de dire, le placebo, ça fonctionne très bien, donc pourquoi pas. C'est un peu comme tous les aliments aphrodisiaques, finalement. Si, finalement, on vous voyait que là, vous avez envie de tester un stage, etc., bah, regardez un peu, est-ce qu'il y a une bonne porte de sortie? Est-ce que ce stage qu'on peut faire ensemble, c'est bien sécurisé? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des retours, etc.? C'est souvent sous recommandation. C'est essayer finalement de se dire on borne ce qu'on a envie, mais il y a aucune règle.
Ouais, et puis bien dissocier, je pense, le vrai du faux, pour le coup. C'est, ouais. C'est chaud vraiment à identifier, mais c'est largement faisable. Je pense à une anecdote que tu parlais de, à l'instant de différents exemples, mais j'avais vu aussi, c'était sur Insta, je crois, c'était sur un parfum qui, pour homme, très dans tout ce qui est odeur sensorielle, qui a attiré toutes les femmes et qu'en gros, il y avait toutes les femmes à leurs pieds. Ça me faisait penser à un dessin animé carrément, le machin. Pour moi, oui, l'odeur, tout ce qui est olfactif, ça attire. Il y a des choses qui peuvent permettre ça, mais pas à ce point.
Bah, disons que des vrais parfums, parce qu'ils utilisent le marketing de la phéromone, effectivement, pourquoi pas, sur le papier, pourquoi pas. Mais ce n'est pas des produits que tu trouverais à ce prix-là. Et c'est surtout, encore une fois, la composition des produits. Qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans? Et dans tous ces bullshit que tu trouves, c'est attention à l'image aussi. On en parlait tout à l'heure, des cours où des femmes sont transcendées dans ces états-là. Qu'est-ce que ça cache derrière? Qui c'est ce mec-là qui fait ce stage? On ne sait pas, on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ça peut être que des actrices qui sont seules et qui font semblant. Enfin, il y a tellement de faux maintenant que c'est vraiment toujours se dire « Attends, on me propose une solution un peu miracle à mon problème. »
Ouais, ça peut-être pue un peu derrière.
Bon, on va quand même un peu regarder derrière. Ça me paraît un peu suspicieux tout ça, quoi.
Oui, bah, clairement, c'est ça. C'était prendre des pincettes et pas adhérer à tout, en fait, tout simplement.
C'est ça.
Comment on peut, ce chemin de redécouverte à soi, de connaissance de soi, de se reconnecter à soi, comment cette approche-là, elle peut changer le lien vis-à-vis de nous déjà et vis-à-vis de l'autre?
Bah, c'est vraiment des moments où on prend soin de soi, donc on fait forcément une augmentation déjà de son ressenti, de son bien-être général, et le bien-être général, ça va aller de pair avec tout. On parlait justement d'avoir ces moments d'auto-exploration. Mmh. Ça peut être des moments dans l'exploration qui peut être très sain et sans forcément de dimension sexuelle aussi. On parlait du massage tout à l'heure. C'est-à-dire, bah, si on a envie de tenter, que ce soit un petit peu de spiritualité, avec un massage où c'est très clair, très borné, on va voir une professionnelle de massage ayurvédique, par exemple, où on a du soin, où on va être dans une certaine spiritualité sans aller jusque...
Bah, trop loin.
On peut faire des séances de bol tibétain, de choses comme ça, où effectivement, on est sur des moments où on va essayer certaines ondes de notre corps, certains comme du magnétisme par exemple. On peut essayer tout ça pour voir un petit peu comment notre corps réagit, comment on perçoit tout ça, sans aller trop dans l'extrême.
Est-ce que tu penses qu'il y a des limites particulières qu'on doit poser justement?
Bah, c'est un peu l'état, le constat général de tout le monde. C'est si on vous promet de guérir votre problème à coup de bifton et qu'on vous dit bah, de toute façon arrêtez votre traitement médical parce que moi j'ai la solution, c'est on fuit et on porte plainte directement. Enfin, il n'y a même pas de sujet. C'est-à-dire que si ce n'est pas un médecin de l'ordre des médecins qui est vraiment mais, c'est un praticien voilà, sérieux. Qui vous demande d'arrêter un traitement qui a été prescrit par un médecin, mais c'est le red flag, mais ambulant, quoi. On dit toujours, quand je travaillais en cancéro, par exemple, on dit toujours, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à côté, c'est-à-dire que si vous voulez aller voir un naturopathe, si vous voulez aller voir n'importe qui, parce que ça vous fait du bien, mais allez-y. Par contre, la seule chose, on n'arrête jamais le traitement. C'est le seul truc.
Bah, sauf contre-indication d'un autre médecin, etc., etc. Comme tu disais, quoi.
On peut avoir effectivement plusieurs avis, mais on en prend en général toujours au moins trois. Comme ça, on est bien d'accord.
On va dire qu'on peut terminer sur cette note, comme quoi on peut définir et qu'on a la capacité de définir sa propre spiritualité.
Totalement.
Intime.
Propre borne et limite de ce qu'on est.
Merci Chloé, encore une fois. Le prochain sujet est à découvrir sur Instagram sexploration.lucille.bac. Ça t'a plu? Si cet épisode t'a fait vibrer, partage-le, note-le, parle-en. On se retrouve chaque jeudi pour casser la routine avec Sexploration. Bisous, bisous!
Bisous!